un tournant important que cherchent à prendre tous les pays européens, c'est celui de la transition énergétique. Les débats sont lancés, comment faire face au renchérissement du coût de l'énergie, à sa raréfaction et quelles seront les conséquences des choix à venir sur le climat mondial. Dans ce contexte, la Monaco Méditerranée Foundation a invité un expert. Il s'agit de Pierre Gadonex, ancien PDG d'EDF et aujourd'hui président du Conseil mondial de l'énergie. Il brosse d'abord un constat de la situation actuelle de l'énergie au micro de Noël Fantoni.
En France, la concertation pour le débat sur la transition énergétique a commencé. Et en fait, un peu tous les pays aujourd'hui, dans le monde, en Europe, mais aussi les pays émergents, aux États-Unis, sont amenés à s'interroger sur leur politique énergétique dans le contexte à la fois d'une crise économique et d'enjeux énergétiques qui ont changé de nature au cours des dernières années. Et en particulier, les préoccupations de développement économique qui impliquent d'avoir une croissance et un accès à une énergie et une sécurité d'accès à l'énergie sont des préoccupations qui prennent une part prépondérante dans la plupart des pays. Et le fait d'avoir accès à une énergie qui soit sûre d'accès et des conditions économiques compatibles avec le développement devient une préoccupation majeure pour tous les pays, sans oublier les deux autres préoccupations qui sont les conséquences de l'utilisation de l'énergie sur le réchauffement climatique et sur l'environnement, et puis la préoccupation dans beaucoup de pays, bien sûr les pays émergents d'abord, mais pas seulement, c'est d'avoir une possibilité d'accès à l'énergie pour les populations les plus démunies, parce qu'il n'y a pas de vie moderne sans accès à l'énergie. Bien sûr, chacun des pays adapte la stratégie en fonction de ses ressources propres, mais il y a des enjeux qui sont globaux. L'environnement, les émissions de gaz carbonique sont un enjeu global, et il est important de faire des choix et de coordonner la manière dont les différents pays traitent ce sujet.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les enjeux sont plus stratégiques qu'économiques ?
Alors, la crise économique qui s'est développée depuis 2008 a amené la plupart des pays à privilégier les aspects économiques et développement par rapport aux autres enjeux. Mais, en tant que président du Conseil mondial de l'énergie, j'insiste beaucoup là-dessus, les autres enjeux, notamment environnement, réchauffement climatique, sécurité, doivent être présents. Mais c'est certain que la plupart des pays ont privilégié l'accès à une énergie qui soit le moins cher possible. Le coût de l'énergie augmente, puisque c'est de plus en plus difficile d'aller chercher de l'énergie, mais il s'agit de limiter cette augmentation des coûts pour maintenir le niveau de vie et le développement des pays. Et chaque pays a ses atouts. Alors bien sûr, il y a une grande différence entre les pays émergents à forte croissance et les pays riches au CDE qui n'ont plus de croissance de l'énergie. Par contre, dans des pays émergents comme la Chine, l'Inde, la croissance est très forte. Donc eux, le défi est encore plus compliqué pour eux, parce qu'eux, ils doivent investir pour développer des nouvelles capacités ou importer, parce que quelquefois, ils peuvent pas produire localement. Des pays comme l'Inde et la Chine sont aujourd'hui très présents sur le marché parce qu'ils n'ont pas assez de ressources propres. Bon, les États-Unis ont vécu une révolution avec les ruptures technologiques qui font qu'ils vont devenir indépendants sur le plan énergétique pour le pétrole et le gaz dans quelques années. Mais l'Europe est toujours dépendante d'importations et c'est l'important pour l'Europe, bien sûr, c'est de valoriser ses atouts existants. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme atouts existants, l'Europe ? Je dirais qu'on en a trois. Les infrastructures existantes, le fait d'avoir déjà des installations de réseau, des capacités hydrauliques qui n'émettent pas de CO2, c'est déjà un atout. Deuxième atout, comme on disait il y a 20 ans ou 30 ans, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, c'est-à-dire qu'on a des compétences, des technologies, dans les énergies nouvelles en particulier. Puis le troisième, c'est qu'on a quand même quelques ressources propres qu'il faut valoriser au mieux. Bien sûr, il y a l'hydraulique, mais apparemment, il y a le charbon continue à jouer un rôle, moins en Europe que dans le reste du monde, mais le charbon continue à jouer un rôle dans certains pays, notamment en Europe centrale.
Vous pensez que le gaz de schiste en France...
Le gaz de schiste, en Europe, je pense que le gaz de schiste, un jour, se développera. Mais c'est un défi technologique parce qu'il faut pouvoir démontrer qu'on peut exploiter le gaz de schiste dans des conditions qui sont à la fois sûres et économiques. La situation est assez différente des États-Unis de toute façon, parce que les structures géologiques ne sont pas les mêmes. Et aux États-Unis, il y a un débat actuellement pour voir dans quelles conditions le gaz de schiste pourra poursuivre son développement. Alors, dans toutes les politiques énergétiques, parce qu'au Conseil mondial de l'énergie, on a recensé les politiques énergétiques de tous les pays qui adhèrent au Conseil mondial de l'énergie, c'est-à-dire presque tous les pays. Et il faut bien voir, c'est qu'il y a déjà un axe qui est privilégié dans tous les pays et qui est légitime, c'est les économies d'énergie, la maîtrise de l'énergie. La première forme de, certainement d'énergie, de ressources nationale ou locale, c'est l'économie d'énergie. Ceci étant, l'économie d'énergie a aussi un coût. Et donc, il s'agit de privilégier les technologies, les compétences, pour faire en sorte que cette maîtrise de l'énergie soit faite dans les conditions économiques les plus favorables. Ça, ça passe par la technologie, mais aussi par la communication, par la formation, pour que les comportements des utilisateurs progressent. J'avais été extrêmement intéressé, là, au mois de novembre, quand j'étais venu pour l'Assemblée générale du Conseil mondial de l'énergie. Il y avait eu ici un événement à Monaco, et il y avait une présentation de ce qui avait été fait à Monaco en matière de maîtrise de l'énergie dans un certain nombre de bâtiments publics. Et c'était un exemple qui montre qu'on peut faire des économies d'énergie qui à la fois assurent une sécurité d'approvisionnement et qui sont économiques. Contrairement à ce qu'on croit, l'énergie qu'on ne consomme pas n'est pas gratuite. Elle peut avoir un coût. Puisque l'isolation, par exemple, puisque c'était beaucoup de technologies pour améliorer le rendement des installations, mais aussi pour isoler les bâtiments. Et ça, ça peut avoir un coût.
Au-delà, est-ce que aujourd'hui, quand on voit le coût, par exemple, des installations nouvelles manières, genre ITER, EPR, etc., qui coûtent vraiment très très cher et qui dépassent de très loin les budgets déjà vus, est-ce que les énergies renouvelables commencent à devenir compétitives ?
Tout à fait. Il y a des énergies renouvelables qui sont d'ailleurs, ce sont les énergies renouvelables qui connaissent le plus fort développement actuellement dans le monde entier. Alors, la première énergie renouvelable aujourd'hui qui fait 80% de l'énergie renouvelable produite dans la planète, c'est quand même l'hydraulique. L'hydraulique est une énergie renouvelable qui est disponible. Elle est très largement développée en Europe et en France, mais encore un potentiel considérable dans certaines régions du monde. En Asie, en Amérique latine, en Afrique, il y a encore un potentiel d'hydraulique considérable et dans des conditions économiques rentables. Alors ensuite, dans les énergies renouvelables nouvelles, celle qui connaît le plus fort taux de développement de loin et qui représente la moitié du potentiel aujourd'hui, c'est l'éolien. L'éolien se développe et dans certaines conditions, il est compétitif, oui bien sûr. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait du vent. Alors le solaire, et aujourd'hui, se développe un peu moins. Il a un taux de croissance important, mais les installations sont quand même plus limitées. Il peut être rentable à condition de continuer à faire de la recherche. Bon, je pense qu'on n'a pas atteint aujourd'hui encore le stade ultime de la technologie. Il y a encore des progrès à faire. Alors que dans l'éolien, on pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à des coûts qui sont à peu près stables. On progressera pas beaucoup. Les coûts du solaire ont beaucoup baissé. Ils ont été divisé par 10 au cours des dernières décennies, donc c'est considérable. On peut penser qu'il y aura encore des baisses de coûts. Et puis, la rentabilité du solaire dépend beaucoup de l'ensoleillement des régions. Entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, le nombre d'heures d'ensoleillement peut varier du simple au double. Il y a à peu près 1000 à 1200 heures dans l'Europe du Nord, et plutôt 1800 à 2000 heures dans l'Europe du Sud.
Et pourtant les Allemands qui sont en pointe.
Eh bien, ce qui veut dire que, et c'est un des questions qui amène les Allemands à reconsidérer leur politique actuellement, c'est que ce qui a donné lieu aujourd'hui au développement des énergies renouvelables, ce n'est pas les conditions d'ensoleillement ou de vent, ça a été les subventions. Donc il y a eu des subventions considérables, et aujourd'hui l'Europe en général, et l'Allemagne en particulier, est amenée à reconsidérer ses politiques parce qu'elles sont trop coûteuses. Et les enjeux en Europe finalement aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de croissance des besoins de capacités nouvelles. Donc la question qui se pose, c'est de voir comment moderniser et diversifier nos ressources énergétiques. Alors, moderniser les installations existantes, c'est nécessaire, et c'est une occasion, généralement, d'améliorer leur rendement et qu'elles soient moins polluantes. Et il y a des réglementations pour ça.
C'était une interview réalisée par Noël Fantoni.